Le livre des esprits, livre premier, les causes premières, chapitre premier, Dieu. Ce chapitre regroupe quatre titres. Dieu et l'infini, preuve de l'existence de Dieu, attribut de la divinité et panthéisme. Premier titre, Dieu et l'infini. Repère 1. Question. Qu'est-ce que Dieu ? Réponse. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Renvoi. Il existe un renvoi, je vais le lire. Le texte placé entre guillemets à la suite des questions est la réponse même donnée par les esprits. On a distingué par un autre caractère les remarques et développements ajoutés par l'auteur, lorsqu'il y aurait eu possibilité de les confondre avec le texte de la réponse. Quand il forme des chapitres entiers, la conclusion n'étant pas possible, on a conservé le caractère ordinaire. Repère 2. Que doit-on entendre par l'infini ? Réponse. Ce qui n'a ni commencement ni fin, l'inconnu, tout ce qui est inconnu est infini. Repère 3. Question. Pourrait-on dire que Dieu, c'est l'infini ? Réponse. Définition incomplète. Pauvreté de la langue des hommes qui est insuffisante pour définir les choses qui sont au-dessus de leur intelligence. Commentaire. Dieu est infini dans ses perfections. Mais l'infini est une abstraction. Dire que Dieu est l'infini, c'est prendre l'attribut pour la chose même, et définir une chose qui n'est pas connue par une chose qui ne l'est pas davantage. Titre. Preuve de l'existence de Dieu. Repère 4. Question. Où peut-on trouver la preuve de l'existence de Dieu ? Réponse. Dans un axiome que vous appliquez à vos sciences, il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, et votre raison vous répondra. Commentaire. Pour croire en Dieu, il suffit de jeter les yeux sur les œuvres de la création. L'univers existe, il a donc une cause. Douter de l'existence de Dieu serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien n'a pu faire quelque chose. Repère 5. Question. Quelles conséquences peut-on tirer du sentiment intuitif que tous les hommes portent en eux-mêmes de l'existence de Dieu ? Réponse. Que Dieu existe, car d'où lui viendrait ce sentiment s'il ne reposait sur rien ? C'est encore une suite de principes qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Repère 6. Le sentiment intime que nous avons en nous-mêmes de l'existence de Dieu ne serait-elle pas le fait de l'éducation et le produit d'idées acquises ? Réponse. Si cela était, pourquoi vos sauvages auraient-ils ce sentiment ? Commentaire. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait, comme les notions des sciences, que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Repère 7. Question. Pourrait-on trouver la cause première de la formation des choses dans les propriétés intimes de la matière ? Réponse. Mais alors, quelle serait la cause de ces propriétés ? Il faut toujours une cause première. Commentaire. Attribuer la formation première des choses aux propriétés intimes de la matière serait prendre l'effet pour la cause, car ces propriétés sont elles-mêmes un effet qui doit avoir une cause. Repère 8. Question. Que d'opinion qui attribue la formation première à une combinaison fortuite de la matière, autrement dit au hasard? Réponse. Autre absurdité. Quel homme de bon sens peut regarder le hasard comme un être intelligent? Et puis, qu'est-ce que le hasard? Rien. Commentaire. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées, et, par cela même, révèle la puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus le hasard. Repère 9. Question. Où voit-on, dans la cause première, une intelligence suprême et supérieure à toutes les intelligences? Réponse. Vous avez un proverbe qui dit ceci. Deux points, ouvrez les guillemets. À l'œuvre, on reconnaît l'ouvrier. Fermez les guillemets. Eh bien, regardez l'œuvre et cherchez l'ouvrier. C'est l'orgueil qui engendre l'incrédulité. L'homme orgueilleux ne veut rien au-dessus de lui. C'est pourquoi il s'appelle esprit fort. Pauvre être qu'un souffle de Dieu peut abattre. On juge la puissance d'une intelligence par ses œuvres. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause première, est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause. Et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. C'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose. Quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. Titre. Attribut de la divinité. Repère 10. Question. L'homme peut-il comprendre la nature intime de Dieu? Réponse. Non. C'est un sens qui lui manque. Repère 11. Question. Sera-t-il un jour donné à l'homme de comprendre le mystère de la divinité? Réponse. Quand son esprit ne sera plus obscurci par la matière et que, par sa perfection, il sera rapproché de lui, alors il le verra et il le comprendra. Commentaire. L'infériorité des facultés de l'homme ne lui permet pas de comprendre la nature intime de Dieu. Dans l'enfance de l'humanité, l'homme le confond souvent avec la créature, dont il lui attribue les imperfections. Mais à mesure que le sens moral se développe en lui, sa pensée pénètre mieux le fond des choses, et il s'en fait une idée plus juste et plus conforme à la saine raison, quoique toujours incomplète. Repère 12. Question. Si nous ne pouvons comprendre la nature intime de Dieu, pouvons-nous avoir une idée de quelques-unes de ses perfections? Réponse. Oui, de quelques-unes. L'homme les comprend mieux à mesure qu'il s'élève au-dessus de la matière. Il les entrevoit par la pensée. Repère 13. Question. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ses attributs? Réponse. À votre point de vue, oui, ce que vous croyez tout embrasser. Mais sachez bien qu'il est des choses au-dessus de l'intelligence de l'homme le plus intelligent, et pour lesquelles votre langage, borné à vos idées et à vos sensations, n'a point d'expression. La raison vous dit, en effet, que Dieu doit avoir ses perfections au suprême degré, car s'il en avait une seule de moins, ou bien qu'il ne fût pas à un degré infini, il ne serait pas supérieur à tout et, par conséquent, ne serait pas Dieu. Pour être au-dessus de toutes ces choses, Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n'avoir aucune des imperfections que l'imagination peut concevoir. Commentaire. Dieu est éternel. S'il avait eu un commencement, il serait sorti du néant, ou bien il aurait été créé lui-même par un être antérieur. C'est ainsi que de proche en proche, nous remontons à l'infini et à l'éternité. Il est immuable. S'il était sujet à des changements, les lois qui régissent l'univers n'auraient aucune stabilité. Il est immatériel, c'est-à-dire que sa nature diffère de tout ce que nous appelons matière. Autrement, il ne serait pas immuable, car il serait sujet aux transformations de la matière. Il est unique. S'il y avait plusieurs dieux, il n'y aurait ni unité de vue, ni unité de puissance dans l'ordonnance de l'univers. Il est tout-puissant parce qu'il est unique. S'il n'avait pas la souveraine puissance, il n'y aurait quelque chose de plus puissant et d'aussi puissant que lui. Il n'eût pas fait toutes choses et celles qu'il n'aurait pas faites seraient l'œuvre d'un autre Dieu. Il est souverainement juste et bon. La sagesse providentielle des lois divines se révèle dans les plus petites choses comme dans les plus grandes, et cette sagesse ne permet de douter ni de sa justice, ni de sa bonté. Titre Panthéisme. Repère 14. Question. Dieu est-il un être distinct, ou bien serait-il, selon l'opinion de quelques-uns, la résultante de toutes les forces et de toutes les intelligences de l'univers réunies? Réponse. S'il en était ainsi, Dieu ne serait pas, car il serait l'effet et non la cause. Il ne peut être à la fois l'un et l'autre. Dieu existe? Vous n'en pouvez douter. C'est l'essentiel. Croyez-moi, n'allez pas au-delà. Ne vous égarez pas dans un labyrinthe d'où vous ne pourrez sortir, car cela ne vous rendrait pas meilleur, mais peut-être un peu plus orgueilleux, parce que vous croiriez savoir, et qu'en réalité, vous ne sauriez rien. Laissez donc de côté tous ces systèmes. Vous avez assez de choses qui vous touchent plus directement, à commencer par vous-même. Étudiez vos propres imperfections, afin de vous en débarrasser. Cela vous sera plus utile que de vouloir pénétrer ce qui est impénétrable. Repère 15. Question. Que penser de l'opinion d'après laquelle tous les corps de la nature, tous les êtres, tous les globes de l'univers seraient des parties de la divinité et constitueraient par leur ensemble la divinité elle-même, autrement dit, de la doctrine panthéiste? Réponse. L'homme, ne pouvant se faire Dieu, veut tout au moins être une partie de Dieu. Repère 16. Question. Ceux qui professent cette doctrine prétendent y trouver la démonstration de quelques-uns des attributs de Dieu. Les mondes étant infinis, Dieu est, par cela même, infini. Le vide, ou néant, n'étant nulle part, Dieu est partout. Dieu étant partout, puisque tout est partie intégrante de Dieu, il donne à tous les phénomènes de la nature une raison d'être intelligente. Que peut-on opposer à ce raisonnement? Réponse. La raison. Réfléchissez mûrement, et il ne vous sera pas difficile d'en reconnaître l'absurdité. Commentaire. Cette doctrine fait de Dieu un être matériel qui, bien que doué d'une intelligence suprême, serait en grand ce que nous sommes en petit. Or, la matière se transformant sans cesse, s'il en était ainsi, Dieu n'aurait aucune stabilité. Il serait sujet à toutes les vicissitudes, à tous les besoins même de l'humanité. Il manquerait d'un des attributs essentiels de la divinité, l'immuabilité. Les propriétés de la matière ne peuvent s'allier à l'idée de Dieu sans le rabaisser dans notre pensée. Et toutes les subtilités du sophisme ne parviendront pas à résoudre le problème de la nature intime. Nous ne savons pas tout ce qu'il est, mais nous savons ce qu'il ne peut pas en être. Et ce système est en contradiction avec ses propriétés les plus essentielles. Il confond le créateur avec la créature, absolument comme si l'on voulait qu'une machine ingénieuse fût une partie intégrante du mécanicien qui l'a conçue. L'intelligence de Dieu se révèle dans ses œuvres comme celle d'un peintre dans son tableau. Mais les œuvres de Dieu ne sont pas plus de Dieu lui-même que le tableau n'est le peintre qui l'a conçu et exécuté.